Depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditrices, auditeurs. Dans le monde entier, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les nouvelles de l'Indonésie et d'autres infos tels que l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, magazine culturel, l'Indonésie en couleur et une chanson indonésienne. Bon, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur le site web www.voanews.id. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Selon le président Joko Widodo, le taux d'inflation indonésien de 2,84% en mai est le meilleur au monde. L'armée nationale indonésienne est prête à envoyer des soldats et du matériel de défense vers la Palestine. L'inflation en Indonésie est meilleure que celle des autres pays du G20, a déclaré le ministre coordinateur Erlangga. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le président indonésien Joko Widodo a déclaré que le taux d'inflation en Indonésie en mai 2024 à 2,84% était l'une des meilleures réalisations au monde. C'est ce qu'a déclaré le président Joko Widodo lors de l'ouverture de la réunion de coordination nationale de 2024 pour le contrôle de l'inflation au Palais d'État de Jakarta vendredi.
Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tim.
Je voudrais exprimer ma plus profonde gratitude à l'équipe centrale de contrôle de l'inflation et aux équipes régionales de contrôle de l'inflation qui ont travaillé dur pour que notre inflation en mai soit à 2,80%. C'est l'un des meilleurs au monde. Selon le président Joko Widodo, la situation actuelle de l'inflation est relativement meilleure qu'elle ne l'était il y a 10 ans en Indonésie, qui était de 9,6%. À cette occasion, le président a rappelé à tous les décideurs politiques régionaux de considérer l'inflation comme une question importante qui doit être prise en compte. Le président a apprécié le travail du ministre de l'Intérieur, Tito Karnavian, qui a ouvert un système d'information sur l'inflation dans toutes les régions d'Indonésie. Le président Joko Widodo a souligné que la situation économique nationale est dans un état nouveau, avec un taux d'inflation de 2,84% et une croissance économique de 5,11%. L'ordre du jour de la réunion de coordination nationale a réuni en personne tous les gouverneurs d'Indonésie, tandis que le maire et les responsables du région étaient présents en ligne. Le commandant de l'armée nationale indonésienne, le général Agus Subianto, a déclaré que son parti était prêt à envoyer des soldats et du matériel de défense en Palestine. Agus, lors d'une réunion avec la direction centrale du Conseil indonésien des ulémas, ou MUI, au bureau du MUI à Jakarta vendredi, a déclaré que son parti soutenait le souhait de nombreux partis d'envoyer des soldats du TNI pour effectuer une mission humanitaire. Il a expliqué que l'équipement de défense en préparation comprenait 3 avions de transport. Ces avions transporteront des victimes de guerre palestinienne pour être soignées en Indonésie. Agus a ajouté que le TNI est également prêt à envoyer 2 navires d'aide hospitalière, à savoir KRI Rajiman Widjodiningrat 992 et KRI Wahidin Sudirohusodo 991. Ce navire est équipé d'un hélicoptère qui peut transporter les victimes de conflit à Gaza pour qu'elles soient soignées à bord du navire. Le vice-président du MOI, M. Marsoudi Souhoud, a apprécié la volonté du TNI de participer au maintien de la paix en Palestine. Il a souligné que le MOI a publié recommandation au gouvernement indonésien d'envoyer des soldats du TNI à Gaza. Le ministre coordinateur des affaires économiques, M. Erlangga Hartarto, a déclaré que le taux d'inflation de l'Indonésie était encore relativement meilleur que le taux d'inflation de divers autres pays membres du G20, tels que la Russie, l'Inde, l'Australie et les États-Unis. Erlangga Hartarto a déclaré à Jakarta vendredi que l'inflation indonésienne en mai dernier elle était de 2,84% sur un an. Lors de la réunion de coordination nationale de 2024 pour le contrôle de l'inflation au Palais d'État de Jakarta vendredi, il a souligné que l'inflation peut être contrôlée grâce à la politique de prix abordable, au maintien de la disponibilité de l'approvisionnement, à une distribution fluide et une communication efficace entre les parties prenantes, notamment en ce qui concerne le mix de politiques budgétaire, monétaire et réel. En dehors de cela, d'autres efforts employés visent à accroître la production agricole en augmentant la location d'engrais subventionnés et l'accès au financement pour le secteur agricole à travers le crédit populaire aux entreprises pour le secteur agricole avec une part de distribution de 30,4%. Erlangga a déclaré son parti essaye également d'assurer une distribution fluide, notamment pour 10 produits alimentaires stratégiques et d'optimiser les autoroutes maritimes pour la distribution dans les zones sous-développées, éloignées et ultra-périphériques. La directrice générale adjointe de l'Organisation internationale du travail, ou OIT, Céleste Drake, se rendra en Indonésie du 18 au 21 juin 2024 pour discuter de diverses questions liées au travail. Une déclaration écrite de l'OIT Indonésie, citée par Antara vendredi, a déclaré que cette visite marque la première visite officielle de Céleste en Indonésie et en Asie depuis sa prise de fonction à Genève en août 2023. Le directeur de l'Organisation internationale du travail pour l'Indonésie et Timor-Leste, Simrin Singh, a déclaré que cette visite constitue une reconnaissance importante de l'excellence du travail de l'OIT et des institutions indonésiennes pour relever les défis du marché du travail et saisir les opportunités d'apporter une différence positive dans la vie professionnelle des femmes et des hommes indonésiens et dans l'économie. Singh a ajouté que cela offre l'opportunité de consolider une vision centrée sur l'humain pour un marché de travail en évolution rapide qui n'est pas isolé des tendances régionales et mondiales, y compris la crise et la technologie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. 4 entreprises chinoises de fabrication de voitures électriques soutiennent l'Indonésie pour augmenter ses exportations de voitures électriques. En fait, elles veulent faire de l'Indonésie une plaque tournante pour les voitures électriques. Ces voitures seront ensuite exportées vers 54 pays utilisateurs voitures à conduite à droite. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie, M. Agus Gumiwang Kartasasmita, dans sa déclaration à Jakarta vendredi, après avoir rencontré les acteurs de l'industrie automobile à Pékin. Le gouvernement indonésien, selon le ministre de l'Industrie, a fixé un objectif de production de 600 000 voitures électriques jusqu'en 2030. Les 4 entreprises rencontrées par le ministre de l'Industrie ont salué Les espoirs de l'Indonésie d'augmenter les exportations. Le ministre Agus Gumiwang a ajouté que l'augmentation des exportations se ferait grâce à un volume supplémentaire. En dehors de cela, l'entreprise ajoutera des pays de destination des exportations pour ses usines en Indonésie. Le membre de la Chambre des représentants indonésienne, M. Syahrul Aidi Mazat, a demandé aux Nations Unies d'exhorter Israël à se conformer à la résolution de cessez-le-feu avec la Palestine. Cela fait suite à la résolution de cessez-le-feu récemment approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU. En raison des résolutions précédentes, Israël a tendance de désobéir. Syahrul Aidi Mazat à RRI samedi a demandé à l'Amérique d'agir de manière neutre dans le conflit. Israël et le Hamas qui ont violé la résolution doivent être punis. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution pour réaliser un cessez-le-feu ainsi qu'une solution globale au conflit dans la bande de Gaza. Cette résolution est soutenue par 14 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, donc les États-Unis en tant que pays proposant, l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que cette décision confirme la position du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon elle, la seule manière de parvenir à une paix durable passe par un règlement politique. Les dirigeants du groupe G7 ont annoncé vendredi qu'ils étaient unis pour soutenir le cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Dans la déclaration commune, les dirigeants ont également appelé à une augmentation significative et durable de l'aide humanitaire. Le 31 mai, le président américain Joe Biden a déclaré qu'Israël proposait un accord en trois phases qui mettait fin à hostilité à Gaza et garantirait la libération des otages détenus par le territoire côtier. Le plan comprend un cessez-le-feu, un échange de prisonniers otages et la reconstruction de Gaza. La déclaration commune indique également que les dirigeants du groupe G7 sont solidaires pour soutenir la lutte de l'Ukraine pour la liberté et la reconstruction du pays aussi longtemps que nécessaire. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci d'être fidèle à notre antenne, la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique L'accueil diplomatique, intitulée Batik et songket indonésiens sont exposés en Italie. Les vêtements fabriqués à partir de batik et de songket par la créatrice indonésienne Dian Natalia Asamadi ont été exposés lors d'un défilé de mode organisé par l'ambassade de la République d'Indonésie à Rome, en Italie, le 6 juin 2024. L'objectif de l'événement, mes tissus et batik indonésien et de promouvoir le tissu traditionnel indonésien ou wastra qui a été désigné par l'UNESCO en 2009 comme patrimoine culturel, oral et immatériel. Une déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Rome mardi a déclaré que le batik est très apprécié en raison de son processus de fabrication complexe. En tant que designer, Dian Natalia Asamadi exprimer sa fierté et son engagement dans le renforcement de l'identité et de la culture indonésienne qui est parfois confrontée à des défis venant de l'étranger et du pays. Dian a déclaré que l'Indonésie avait une culture riche, par conséquent en promouvant le tissu indonésien sous forme de batik et de tissu tissé auprès du monde international, elle espère que cet effort pourra renforcer l'identité indonésienne. Pendant ce temps, le chef de l'ambassade d'Indonésie à Rome, Leviana Hartati Ferdinandus, a déclaré que l'exposition de mode faisait partie de la célébration des 75 ans de relations diplomatiques entre l'Indonésie et l'Italie. Les deux pays ont des liens étroits non seulement au niveau du gouvernement, mais aussi les relations entre les communautés. Des événements comme celui-ci rassemblent les communautés et continuent de collaborer et de construire l'amitié et la coopération mutuelle. Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Économie créative, M. Sandiaga Uno, a déclaré que l'événement de mode avait pour mission de faire connaître les tissus traditionnels indonésiens sur la carte du monde et devait être soutenu par tous les éléments de l'Indonésie. Sandiaga a exprimé sa plus haute appréciation et ses remerciements à toutes les parties impliquées dans l'événement. L'adjoint au marketing au ministère du Tourisme et de l'Économie créative, Madame Made Ayu Martini, espère que cet événement pourra avoir un impact positif sur la croissance du secteur de l'économie créative en Indonésie et accroître la sensibilisation et la protection des tissus traditionnels indonésiens. Représentant de Maximo Comexion en tant que partenaire organisateur de l'événement, Patricia Melin a souligné « Pour faire de l'Indonésie une dimension internationale, il doit y avoir une synergie et une unité entre tous les éléments de la nation indonésienne. » Il a souligné « Son entreprise s'engage à promouvoir la culture indonésienne à l'échelle mondiale. » Chers amis, c'était la rubrique « L'accueil diplomatique » de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Écoutons la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui de 15 juin. Je commence l'histoire d'aujourd'hui avec les événements du 15 juin 1944, la bataille de Saipan. La bataille de Saipan était une bataille sur le théâtre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'est déroulée sur l'île de Saipan qui faisait partie des îles Mariannes. Cette bataille s'est déroulée entre les États-Unis et le Japon du 15 juin 1944 au 9 juillet 1944. L'armée américaine a réussi à vaincre l'armée japonaise commandée par Yoshitsugu Saito. En 1954, l'Union des associations européennes de football a été fondée en Suisse. L'Union des associations européennes de football, ou Association européenne de football, a été fondée à Bâle, en Suisse, le 15 juin 1954. L'Union des associations européennes de football est l'une des associations nationales de football d'Europe. Cette association joue un rôle dans l'organisation de compétitions de clubs et de pays, notamment le championnat d'Europe de UEFA, UEFA Nations League, UEFA Champions League, UEFA Europa League et la Super Coupe de UEFA. L'association réglemente également tous les règlements, les droits de diffusion des médias et les prix lors de compétitions. Les bureaux de UEFA sont situés à Nyon, en Suisse, et comptent 54 associations nationales. Le 15 juin 2013, premier test de l'Airbus A350. Airbus A350 du constructeur européen a effectué son premier vol d'essai entre Toulouse et Paris en France le 15 juin 2013. Après 14 heures de vol, l'avion a atterri sous les applaudissements nourris des employés d'Airbus et des centaines de spectateurs à l'aéroport. Ce vol d'essai a eu lieu 3 jours seulement avant le spectacle aéronautique de Salon de Bourget. Les principaux utilisateurs de Airbus A350 sont Qatar Airways et Singapore Airlines. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Menunggu semua yang masih belum pasti, menahan rindu yang makin gak terkendali. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Menjauh pergi tetap ada kamu lagi. Pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah tadi Mungkin aku terlalu tinggi untuk berharap pada mimpi yang belum tentu bisa terungkap. Tapi jika ada kemungkinannya, aku mau. Yeah. Oh.
Sesuai tujuan Magnu Voice of Indonesia de l'Indonesie pour le monde. Sur site web www.voanews.id. Et voici la rubrique Mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie. Cette fois, nous allons vous présenter le ministre de l'Industrie et l'Industrie chinoise des véhicules électriques. Convient que l'Indonésie deviendra un centre de production pour l'exportation. Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a effectué une visite de travail en Chine les 12 et 13 juin 2024. Cette visite en Chine a permis aux acteurs de l'industrie automobile chinoise d'augmenter les exportations de véhicules motorisés électriques produits en Indonésie. Il a été enregistré que quatre entreprises, à savoir Neta, Wuling, Chery et Socon, racontées par le ministre de l'Industrie lors de la visite, ont salué les espoirs du gouvernement indonésien d'augmenter les exportations, à la fois en augmentant le volume et les pays de destination des exportations de leurs usines en Indonésie. Citant un communiqué de presse du ministère de l'Industrie, le ministre Agus Kartasasmita a déclaré que le gouvernement indonésien avait fixé un objectif de production de véhicules électriques en 2030 de 600 000 unités. La société a également accepté de faire de l'Indonésie un centre de production de véhicules électriques à conduite à droite, destiné à l'exportation vers 54 pays utilisant des voitures à conduite à droite. Le ministre Agus Gumiwang a déclaré que la société de véhicules électriques Neta, par l'intermédiaire de PT Neta Auto Manufacturing Indonesia, prévoit d'augmenter le niveau de composants nationaux jusqu'à 60% en 2025, avec un objectif de vente de 10 000 unités par an. Pendant ce temps, GM Wuling Automobile Company devrait augmenter la quantité d'exportation de voitures électriques fabriquées en Indonésie afin de pouvoir faire de l'industrie des véhicules électriques en Indonésie une base de production dans l'ASEAN et dans le monde. En outre, lors d'une réunion avec Chery Automobile, la société prévoit de mener des recherches sur la production de voitures électriques hybrides rechargeables en Indonésie. En effet, les ventes de voitures sont plus populaires en Chine parce que les voitures PHEV consomment du carburant de manière beaucoup plus économique que les véhicules électriques hybrides. En dehors de cela, l'entreprise a également exprimé son engagement à produire des véhicules électriques avec un total de 100 000 unités ang Dumiltrang. Le ministre de l'Industrie Agus a également déclaré que la société Socon, par l'intermédiaire de Socon Indo, devrait être en mesure de développer des véhicules électriques et de soutenir l'écosystème des véhicules électriques en apportant divers nouveaux modèles de véhicules électriques en Indonésie, étant donné que le fabricant chinois a une capacité de production jusqu'à 50 000 unités. Il a également déclaré que les quatre entreprises manufacturières chinoises pourraient profiter des incitations offertes par le gouvernement indonésien pour investir. Les quatre fabricants chinois de véhicules électriques ont produit et produiront en Indonésie. Actuellement, Socon a une capacité de production de 50 000 unités. Ensuite, la capacité de production de CGMW atteint 120 000 unités. Cependant, Chery prévoit de produire avec une capacité de 8 000 unités via des installations de fabrication. Neta prévoit une production de 9 300 unités. Chers amis, c'est à la rubrique Mon Indonésie, de la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter Lalak Bacan à Sukabumi, à Java West. Sukabumi est une ville située dans la partie sud de l'ouest de Java. Il existe ici de nombreuses attractions touristiques qui attirent l'attention des touristes locaux et étrangers. L'une des destinations touristiques les plus populaires offrant des vues non seulement magnifiques mais également uniques à Sukabumi, c'est le lac de Batu Bacan, situé dans le village de Bojong Harja, sous-district de Cikembar, Sukabumi, Java Occidental. L'origine du lac de Batu Bacan n'est pas le résultat de processus naturel, mais le résultat direct des activités minières. Ce trou d'excavation de mine abandonnée s'est rempli d'eau de pluie et s'est transformé en lac aux eaux vertes émeraudes. Cette couleur verte provient des roses vertes au fond du lac et crée des reflets qui font ressembler ce lac à des bijoux cachés en pleine nature. Outre la jolie couleur de l'eau, le lac de Batu Bacan est également entouré d'impressionnantes formations rocheuses, créant une atmosphère apaisante et enchanteresse. Les visiteurs peuvent profiter de la beauté naturelle préservée tout en expérimentant un calme rarement trouvé au milieu de l'agitation de la vie moderne. Grâce aux installations fournies, les visiteurs peuvent profiter des activités telles que la natation, le camping ou simplement se détendre et profiter de la beauté de la nature. Les enfants touriers peuvent également exploiter les falaises autour du lac et profiter de la vue imprenable depuis les hauteurs. Avec des installations et des services relativement complets comme hébergement, le parking, le restaurant et les autres, ainsi que d'autres préparations supplémentaires comme un appareil photo, il est garanti que vos vacances seront agréables et mémorables. Chers amis, c'est un magazine culturel de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Thank you. I'm not the type of girl you wanna use and play with. Like, all your pickup lines are so, so lame. And you say that you're an F boy, so plain. You show me all the girls you've been with on Instagram, and the like and think of this.
Boy, that's who I am.
I don't know who you are, and you ain't no shining star. So bye bye, boy. Au revoir.
Ketemu, kamu cinta kepadaku.
Jadi, merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Intitulé Le travail d'un designer indonésien remporte à nouveau un prix international. Le travail du peuple indonésien a de nouveau été récompensé lors d'événements internationaux. Cette fois, c'était autour d'œuvres d'Arcadia de pouvoir pénétrer au prix du mobilier Asie-Pacifique 2024. Œuvre d'Arcadia est une entreprise de conception et construction qui promeut activement l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement dans tous ses travaux. Ce prix prestigieux est organisé par un média immobilier international basé à Londres, au Royaume-Uni. Ce prix est une source de fierté pour l'Indonésie parce que Œuvre d'Arcadia a réussi à remporter la catégorie de l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement pendant 4 années consécutives et peut rivaliser avec de nombreuses autres œuvres dans la région Asie-Pacifique. Œuvre d'Arcadia porte sur le thème l'avenir numérique de Nusantara et a remporté un prix dans la catégorie Office intérieur Indonésia lors du prix d'immobilier Asie-Pacifique 2024 qui se sont tenus au Bangkok Marriott Marquis Queen Park en Thaïlande. Grâce à son travail, Œuvre d'Arcadia a conçu un bureau dynamique et moderne mettant en vedette l'héritage culturel indonésien pour BDX, une société fournissant des solutions de centres de données et d'informations hybrides situées à Hong Kong, en Chine, à Singapour et en Indonésie. Le designer d'Œuvre d'Arcadia met en valeur le riche héritage culturel de l'Indonésie en appliquant aux jets de sable des motifs de tissu traditionnels tels que le tissu ulos du nord de Sumatra, le songket pucuk rebung de Palembang et le tissage tanimbar de Moluk. En dehors de cela, l'utilisation de chaises japonaises antiques, de tissus à motif batik sur les têtes d'oreiller, de tables de séparation comme cloison, ainsi que de chaises et de lampes en rotin ont été choisies pour ajouter l'atmosphère indonésienne traditionnelle. Le Le travail de cette année complète trois années de travaux précédents, à savoir l'électrique de Yogyakarta en 2021, contest de Batik en 2022, danse dans la diversité en 2023 et l'avenir numérique de Nusantara cette année en 2024. Il y avait plus de 400 candidatures de divers pays Asie-Pacifique et plus de 500 invités et personnalités de l'industrie pour célébrer d'excellence dans les domaines de l'architecture, du design d'intérieur, de l'immobilier et aussi du développement immobilier. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt. C'était toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons vous présenter d'abord une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Lenggangnya lenggang kota buaya. dari jauh sudah nyata.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.